Nous sommes le 18 septembre. Chères auditrices, chers auditeurs, je reçois aujourd'hui dans l'ITV Calvez celui qui, le 20 juin 2023, devenait le nouveau curé de l'interparoissiale Calvi, Calenzane, Montegrosso, Loum, Di, Galère, Mans, Louis Elraï. Comment allez-vous ?
Très bien, merci de me recevoir.
Je sais que cette émission est très attendue, hein, bien évidemment, qu'on va avoir tous les paroissiens de Calvi.
J'ai une pression.
Vous avez une pression, mais moi aussi, un petit peu. Hein, je ne dis pas de bêtises, bien évidemment. Vous avez 36 ans, originaire du Liban. J'ai un petit peu étudié ce pays qui est bordé par la Méditerranée et accolé à Israël et Chypre. C'est un pays aussi très montagneux. Il y a des similitudes avec la Corse. Est-ce que vous les avez ressentis quand vous êtes arrivé à 18 ans sur le territoire insulaire ?
Je suis arrivé à 18 ans il y a 18 ans. Donc, et effectivement, quand je suis arrivé, j'avais atterri à Bastia et j'avais fait la route directement entre Bastia et Ajaccio et j'ai dû m'arrêter quelques fois parce que j'avais le mal de transport. Et entre chaque arrêt, je disais à l'évêque de l'époque, je dis mais ça ressemble tellement au Liban. Donc effectivement, il y a beaucoup de similitudes, que ce soit au niveau géographique, hein, au niveau aussi des traditions, puisque c'est un pays méditerranéen avec des traditions fortes. Il y a aussi le même attachement que les gens ont par rapport à leur terre et à leur village. Moi, par exemple, je suis né dans le village de ma mère, mais quand on me demande d'où je suis, je dis que je suis du village de mon père, dans lequel je suis allé deux fois dans ma vie. Hein, mais on a des racines qui sont... importante. Et puis il y a aussi l'expression de la foi qui est aussi similaire, une foi très populaire et très démonstrative avec des processions, des confréries aussi.
Alors on va revenir un petit peu sur qui vous étiez jeune, la scolarité. Quelle trajectoire, vous étiez un élève sérieux ? Quelle trajectoire vous avez suivi un petit peu ? On sache un peu plus.
Alors, oui, j'ai toujours été un élève très sérieux. Et il faut toujours bien travailler à l'école, n'est-ce pas ?
Mais, ça, c'est pour les enfants du catéchisme.
Exactement. On en parlera tout à l'heure. Mais alors, moi, j'ai eu la chance en sixième, donc j'avais 11 ans, de croiser le chemin d'un prêtre français qui était au Liban, qui était à la retraite et qui avait fait son service militaire entre 50 et 52 au Liban. Il avait enseigné et il était revenu après la guerre civile pour revoir ses anciens élèves. Et puis, comme il avait toujours l'impression d'avoir laissé la moitié de son cœur au Liban, il était resté au Liban et il s'est engagé au service du collège dans lequel j'étais, un collège catholique. Et il s'est occupé des laboratoires de physique-chimie puisqu'il était un scientifique brillant. Et du coup, on a, avec ma bande d'amis, on a croisé son chemin. On a fait pas mal d'activités ensemble. Il nous faisait faire des montages électroniques. Et puis, on a aussi fondé les scouts marins. On avait fabriqué un bateau, un voilier de 5 mètres dans le laboratoire au deuxième étage qu'il a fallu descendre avec des cordes. Enfin, c'était une autre époque. Hein. Et ce prêtre-là, au bout de 9 ans, il s'est devenu un ami de la famille. Un père spirituel, puis moi, depuis l'âge de 7 ans, je me posais la question de devenir prêtre.
Ah, c'est très tôt.
Oui.
D'accord.
Bah, 7 ans, c'est l'âge de raison, et c'est l'âge où on se pose des questions un peu comme ça. Alors, souvent, on veut devenir médecin, pompier, et moi, je voulais devenir prêtre. Donc, bon. Et ce prêtre voulait rentrer en France pour voir sa sœur qui vieillissait, et il m'a proposé de venir passer les vacances dans la famille de sa sœur. Et je suis arrivé à Lille, dans la région de Lille, à l'âge de 15 ans, et en 3 mois, on a fait le tour de la France en TGV. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France pour la première fois. Ensuite, l'année d'après, sa nièce m'a proposé de revenir faire mes études, j'étais en première, et donc je suis arrivé à Lille, pour le coup, et j'ai continué mes études à Lille. Et à Lille, j'ai fait la connaissance de l'évêque auxiliaire de Lille de l'époque, qui, quand moi je suis retourné au Liban pour un an, lui, il avait été nommé en Corse. C'était Monseigneur Brunin... à l'époque, et comme il m'avait aussi accompagné spirituellement, cette année de retour au Liban, je ne savais pas si je voulais rester au Liban ou retourner à Lille. Je savais que je voulais devenir prêtre, je savais que je voulais rentrer au séminaire, mais j'avais ce questionnement sur le lieu, et il m'avait donné ce conseil, il m'a dit « Écoute, ne prends pas de décision hâtive, il faut discerner dans un lieu neutre, si tu veux, je t'offre une année en Corse. » Je ne savais pas où était la Corse, donc... Et voilà, je suis arrivé en Corse en 2005 pour une année, et ça fait 18 ans.
Alors, une année en tant qu'étudiant, du coup ?
Alors, je suis arrivé, j'avais mon bac. la première année, j'avais fait une année de propédeutique, donc une année un peu de discernement où on réfléchit un peu et on fonde notre réflexion sur la parole de Dieu. Après, j'ai fait 2 années de séminaire. Et au bout de ces 3 années, le séminaire m'a dit, écoute, t'as 21 ans, t'es trop jeune, il faut que tu fasses autre chose avant de continuer le séminaire. Donc, on m'a demandé de partir du séminaire et de trouver une formation diplômante. Parce que pour eux, et à l'époque, je ne le comprenais pas, parce que moi, je voulais devenir prêtre le plus vite possible. Et maintenant, je le comprends mieux, parce que pour eux, c'était une question de faire grandir ma liberté. De ne pas rester au séminaire parce que je ne sais rien faire d'autre, mais de le faire vraiment par choix. Et donc, le fait d'avoir un diplôme pouvait m'assurer cette liberté, et je pouvais me dire, bon, bah, ça ne me plaît pas, j'ai un diplôme, je peux aller travailler. Et donc, j'ai choisi de faire des études à Corté, et j'ai fait un DUT en services et réseaux de communication, et une licence multimédia.
Ça, on y reviendra un peu plus tard, puisque il y a une question à ce sujet. Ensuite, il y a... Ça va intéresser aussi nos auditrices et nos auditeurs, tout ce cheminement, et 3 ans à la paroisse de la Gravonne. Alors, peut-être un petit mot sur cette expérience, peut-être un petit mot aussi pour les paroissiens qui auraient vu sur les réseaux qui a l'émission. Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai été ordonné prêtre le 28 juin 2015 à la cathédrale d'Ajaccio. L'année d'avant, j'avais été ordonné diacre à la cathédrale de Bastia. Et l'évêque de l'époque m'avait nommé vicaire dans une paroisse à Ajaccio, à Saint-Pierre-Saint-Paul. Et j'avais comme mission de m'occuper des jeunes, de la pastorale des jeunes. Et au bout de 5 ans, on m'a confié les paroisses de la Gravonne, toujours avec cette responsabilité pour les jeunes. Et vous savez, c'était mon premier poste de curé, la Gravonne. Donc c'est les premiers pas dans ce monde-là. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié de travailler dans ces paroisses rurales, parce qu'il y avait aussi une sincérité. Et les gens, il y avait une simplicité de relations et de contacts. Et notamment par rapport à la gestion d'un terrain que nous avions pour les jeunes, pour les scouts aussi. Et là aussi, dès que j'avais besoin, les gens venaient. D'ailleurs, j'étais très touché. Je le dis avec beaucoup d'émotion, pour mon installation à la serre, il y avait quand même, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés, mais plus d'une cinquantaine de personnes de la Gravonne qui se sont déplacées, qui ont fait le déplacement exprès pour m'entourer. Et voilà. Et quand l'évêque m'a demandé de quitter la Gravonne pour venir à Calvi, ça a été un peu un déchirement. Je ne connaissais pas Calvi, mais... j'avais pas tellement envie de quitter les gens avec qui j'ai évolué pendant 3 ans, que j'ai servi, que j'ai aimé, que j'aime toujours. Enfin, même si on quitte une paroisse, je leur ai dit d'ailleurs, je ne serai plus votre curé, mais j'espère rester votre ami.
Et en plus, il y avait eu un événement, il y avait le camp scout qui avait été vandalisé. Donc ça aussi, quand on est jeune curé, à aborder ce genre de situation, ça devait être aussi assez particulier.
Alors moi, ce genre de choses me donne beaucoup plus de détermination. Effectivement, quand on a découvert ce qui s'était passé dans ce camp, j'étais avec d'autres personnes qui m'aidaient à travailler là-bas, qui étaient dans « Oh là là, mais comment on va faire ?» En fait, la réponse de l'opinion publique par rapport à son vandalisme a été beaucoup plus forte. Et puis, l'aide qu'on a reçue et les moyens qu'on a reçus pour reconstruire étaient beaucoup plus grands.
D'accord. Voilà. Donc, finalement, un mal pour un bien.
On se serait bien passé quand même.
Oui, bien évidemment. Le 20 juin 2023, vous devenez le nouveau curé de l'interparoissial Calvi Cainzano Montegrosso. Alors, dans une ville doublement affectée, puisque en septembre 2022, suite à un épisode orageux très violent, Notre-Dame de la Serre a été cassée par la foudre. Et le 23 juin 2023, c'était le décès de l'abbé Ange-Michel Valéry. Donc vous arrivez dans une ville un petit peu meurtrie. Moi, j'ai 2 questions. Est-ce que cette nomination était déjà dans les clous depuis quelque temps? Est-ce que vous le saviez déjà en amont? Ou est-ce qu'elle a été précipitée finalement par la santé de l'abbé Valéry? Et la deuxième qui est imbriquée, est-ce que succéder comme ça avec quelqu'un qui a un héritage de plus de 10 ans un personnage. Voilà, véritablement, c'était un personnage. Est-ce que ça met une pression supplémentaire dans l'arrivée d'un nouveau territoire ?
Alors, je pense que depuis le mois d'avril, quand on a appris la maladie de l'abbé Valère, l'évêque était préoccupé par la situation à Calvi. Parce qu'on a vu la santé de l'abbé Valère, il se dégradait vite. Et puis, surtout, le bilan que donnaient les médecins n'était pas très positif. Et on nous avait déjà dit dès le départ qu'il ne tiendrait pas plus de 3 mois. Donc l'évêque, très préoccupé par cette situation, dès le mois d'avril, essayait de trouver une solution. Et moi, il m'a contacté le 30 mai pour me dire, voilà, j'ai une nouvelle qui va bouleverser ta vie. Je pense à toi pour devenir le prochain curé de Calvi. Alors, j'étais en voiture, je me suis garé.
Non, vous étiez garé avant de recevoir le coup de fil. Oui, ça, oui. C'est pour les gens. Ouais.
Non, j'ai le kit main libre. Ah. Enfin. Et je me suis garé parce que là, au début, je lui ai dit, mais vous rigolez. C'est... Moi, 36 ans, effectivement, pour le clergé corse, Calvi, c'est un poste important. Et on n'a jamais vu un jeune de 36 ans devenir curé archiprêtre de Calvi. Et je lui dis, mais vous êtes sérieux? Il me dit, oui, non, mais... Je lui dis, est-ce que j'ai le temps, est-ce que vous me donnez le temps pour la réflexion? Il était 16h. Il me dit, oui, demain avant 8h.
Du donc, matin, pas du soir.
Oui, du matin, bien sûr. Et donc voilà, la réflexion a été rapide. Mais je me suis dit, si l'évêque te fait confiance... et qu'il te donne une mission comme celle-là, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Donc j'ai fait confiance à l'évêque. De toute façon, depuis le jour de notre ordination, nous, on offre notre vie au service de l'Église et on ne maîtrise plus rien. La mission ne nous appartient pas, on est envoyé et on accepte. Après, c'est toujours difficile, il y a toujours un déracinement, un arrachement pour être enraciné ailleurs, donc voilà. Et effectivement, il y avait cette situation aussi de la maladie de l'abbé Valère. Et moi, le 20 juin, quand c'est devenu officiel, j'avais vu avec l'évêque pour qu'on puisse travailler tous les deux avec l'abbé Valère. Parce qu'il était important aussi que, même s'il était malade et qu'il n'était plus très capable à la fin, qu'il reste toujours avec moi curé de Calvi. Et je l'appelle le 20 juin pour lui dire que j'étais heureux de travailler avec lui, parce que jusque-là, je ne pouvais pas lui en parler. Et je sentais qu'il était déjà ailleurs. Et d'ailleurs, 3 jours après, on a appris son décès.
Alors, on va revenir après sur l'arrivée à Calvi, hein, qui est aussi là un peu particulière. Un petit mot de la personne qui vous accompagne, oui. Le père Alphonse Nakima. Vous le connaissiez avant ou ce binôme, comment il s'est formé en fait?
Ben, c'est l'évêque qui a décidé. Et on ne se connaissait pas du tout. Enfin, on s'était vu à quelques célébrations, puisqu'il était à Bastia depuis septembre 2022. Mais dès que la nomination a été officielle, après le décès de l'abbé Valère, la semaine d'après, le 1er et le 2 juillet, il me semble, 1er, 2, 3 juillet, on avait décidé de monter à Calvi pour faire connaissance et aussi pour encourager les équipes qui étaient là. Je pense notamment à Dominique Bianconi.
Qu'on embrasse.
Oui, je suis sûr.
Une habituée des locaux de Radio Calvi Citadelle.
Et pour voir aussi comment on peut nous aider, même si on n'était pas encore présent physiquement, puisque chacun de nous avait sa mission à finir. Mais voilà. Donc on a fait 3 jours ici, on a fait connaissance déjà entre nous et on a fait connaissance avec les équipes qui travaillaient. Et on a visité Notre-Dame de la Serre avec la statue inexistante. Ça fait de drôle d'ailleurs de voir Notre-Dame de la Serre sans sa statue. Et puis on a découvert aussi le chantier de la nouvelle statue, de son arrivée, de l'installation. On a un peu travaillé avec la mairie et avec le conseil économique pour tout ça. Donc on ne se connaissait pas, mais on a très vite fait connaissance et voilà.
On rappelle que le père Alphonse Nakima va passer le permis. Donc là, c'est... Oui, non, mais parce qu'il faut... Ça fait partie aussi de ça, les radios capitales.
Je vois pas.
Mais pour l'obtention d'un futur véhicule. Ouais. Oui. Si les gens ont un véhicule à moindre coût, ou veulent faire une donation peut-être à la paroisse, tout ça, voilà, ce serait bien de se rapprocher justement.
Exactement. Pour l'instant, si vous voyez une voiture sans permis avec un prêtre dedans, c'est normal.
C'est normal. Le code et le permis sont en cours de réalisation et bien évidemment, après, il y aura besoin d'un véhicule. Donc voilà. L'hameçon est lancé et merci. Celui qui veut le prendre le prend. Donc une arrivée à Calvi et là, il y a la pause de Notre-Dame de la Serre.
Un moment d'émotion.
Le week-end, très important de Notre-Dame de la Serre aussi. Comment ça se passe là ? Parce qu'en fait, si vous êtes jeté dans le bain directement.
Ah bah oui. Là, on nous avait annoncé que la statue arriverait, je ne sais plus exactement la date, mais fin août au chantier naval, ce qui a été respecté. Et on nous annonçait que l'installation se faisait dans la semaine du 4 septembre. Et à cause du vent, on a dû tous les jours enguêter pour voir si le vent tombait pour pouvoir l'installer, parce que c'était une opération très périlleuse et très délicate. Et on a pu l'installer le 7 dans l'après-midi, avec beaucoup d'émotions et le cœur qui s'est arrêté de battre quelques fois parce qu'on a eu quelques petites...
Il y a eu un premier échec. Il y a eu un problème. On va pas.
Il y a eu première tentative.
Première tentative
qui n'a pas abouti. On a dû ressortir la statue pour refaire les trous. Donc, je dis on. Moi, j'ai rien fait. Hein. moi, j'ai regardé, j'ai prié. C'est tout ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc, je remercie aussi tous ceux que ce soit les chantiers navals de Calvi ou l'entreprise Maestria qui ont réalisé ça. Et finalement, après une deuxième tentative, les choses se sont bien passées.
On en a parlé tout à l'heure, vous passez derrière un personnage. Si vous deviez définir un petit peu, alors ça fait bien sûr les impressions, elles sont de quelques semaines pour vous, mais c'est ce premier ressenti de cette ville qui est assez, assez particulière. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans un premier temps ?
Bah moi, je suis dans une phase de découverte. Alors, je découvre une ville que je ne connaissais pas. Je découvre une paroisse avec plusieurs paroisses, puisque c'est un secteur interparoissial. Donc, je découvre aussi d'autres aussi. Réalités. Je découvre une famille dans laquelle je suis inséré. C'est pas un mariage forcé, hein, mais voilà, on arrive dans une famille, et donc voilà, il y a plein de découvertes. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de potentiel. J'ai été très bien accueilli par les confrères. J'ai été aidé aussi par deux confrères qui m'ont aidé à m'installer, à faire le déménagement. Donc, je trouve que déjà, ce qui est encourageant, c'est que les gens font des efforts pour m'accueillir. Donc, c'est bien. Et que moi aussi, je fais des efforts pour m'insérer dans une tradition aussi calvaise qui est particulière. Ne serait-ce que le duo Vesalve Regina, vous ne le chantez pas comme les autres.
C'est ça.
Donc, et avec d'autres...
Oui, de monter, on redescend à la fin.
Voilà. Et ben, ça, je découvre. Donc, voilà. Donc, la découverte... La phase de découverte, bah, c'est une phase aussi où on doit continuer le travail, parce que les choses continuent. On lance le catéchisme, donc il y a la journée de rentrée du catéchisme mercredi prochain, le mercredi 20. À 16h, on fait une réunion avec les enfants et les parents, et à 17h30, une messe avec bénédiction des cartables à l'église paroissiale. Le jeudi, on fait le pèlerinage à Notre-Dame de la Vasine. Donc, voilà, les choses se succèdent au milieu de pas mal d'activités aussi et des enterrements qui, en ce moment, sont nombreux. J'espère qu'il y en aura moins les semaines prochaines parce que c'est épuisant. Et puis encore la saison des mariages qui se termine, des baptêmes, voilà.
Alors, on parlait justement de la particularité calvaise, c'est le rôle de... très important dans la vie paroissiale, dans la vie de tous les jours aussi, hein, de ces deux confréries, Saint-Antoine et Abate et Saint-Érasme. Je vais profiter. Alors là, je fais une aparté.
Tu es confrère, on rappelle. Hein. Oui, tu es animateur, confrère.
Barman.
Il y a conflit d'intérêts, là.
Et je vais en profiter pour... on va saluer affectueusement un ami, un bénévole de la radio, c'est Nicolas. et lui dire qu'on pense très fort à lui et qu'on l'embrasse, bien évidemment. Et voilà, toute ma pensée se tourne vers lui. Comment on aborde aussi ces deux entités qui sont très présentes pour vous? Peut-être qu'à la Gravone, c'était moins oppressant. Alors, c'est moi qui dis un terme qui est un peu exagéré. Mais,
moi, j'ai rien dit. Hein.
comment on aborde, on se dit, on va devoir jongler, c'est peut-être nouveau pour vous.
Pas du tout. Alors, dans la Gravone, il y a, quand je suis arrivé il y a 3 ans, il y avait la confrérie de PRI, qui était une jeune confrérie très dynamique, qui existait bien. Il y avait la confrérie de Carbuccia, un peu plus ancienne et un peu moins dynamique. Il y avait la confrérie de Coutoli, qui était un peu en fin de vie, on va dire. Et pendant 3 ans, j'ai voulu que les confréries retrouvent leur rôle et leur intérêt. Voilà. Et donc la confrérie de Coutoli, d'ailleurs, ils étaient présents pour Notre-Dame de la Serre, en nombre. On a réussi en 3 ans à faire rentrer des nouveaux membres, des jeunes, et à refaire redémarrer cette confrérie. Et puis, on a créé aussi, à Sarola, une confrérie aussi pour le village de Sarola. Donc, moi, je suis très favorable aux confréries, et je trouve que ils ont un rôle à jouer dans l'évangélisation qui est important, et ce que vous pouvez faire, moi, je ne peux pas le faire, parce que vous êtes père de famille, vous travaillez dans le monde réel, j'allais dire, dans le monde, vous êtes inséré dans la vie du monde. Donc je pense que la confrérie, c'est un lieu aussi où vous recevez pour que dans votre vie quotidienne, vous puissiez donner. Donc c'est important. Puis il y a aussi les traditions. Vous êtes garant des traditions. Les prêtres se succèdent, viennent de plus ou moins loin. Bon, moi, ça fait 18 ans que je suis en Corse, donc je me sens un peu corse, hein, mais... J'ai connu d'autres réalités, d'autres traditions. Donc, je compte beaucoup sur les confréries aussi pour non seulement perpétuer des traditions, parce que si on perpétue simplement des choses vides de sens, ça n'a pas de sens, mais de redonner du sens aux traditions qu'on perpétue. Voilà.
Si on devait définir un petit peu, pour ceux qui ne vous ont pas encore découvert, pour ceux qui vous entendent pour la première fois aujourd'hui, vous êtes arrivé quand même il y a peu de temps, c'est quoi la pâte Louis El Raï, entre guillemets, et aussi un curé hyper connecté. Un curé hyper connecté. Donc, un homme de... Alors, est-ce que c'est un outil en plus pour communiquer ou est-ce que c'est juste un homme de 36 ans qui est dans son temps, dans son époque?
Bah, je pense que chacun, selon ses compétences et selon ses qualités, met au service de l'Église des choses différentes. L'abbé Valère ne touchait pas un ordinateur, mais ça c'était de notoriété publique. Et quand il était vicaire général, que j'étais à l'évêché, j'avais essayé de lui faire acheter un ordinateur en lui expliquant l'intérêt. Ça ne l'intéressait pas. Donc, voilà. Mais il avait d'autres qualités relationnelles. Il connaissait la vie de tout le monde, les familles. Et c'était un homme aussi, et les gens me le disent aujourd'hui, c'était un homme qui savait faire la paix entre les gens. Et il rentrait dans des conflits pour apaiser les situations. Voilà. Moi, je suis un plus jeune, donc il y a des choses que je ne pourrais pas me permettre de faire comme lui, c'est parce qu'il y a une expérience différente. J'ai un ordinateur, j'ai un smartphone et je suis très connecté. Alors, réseaux sociaux, pas tellement. J'ai Facebook et
Instagram.
Et Instagram.
Je viens de vous identifier à l'instant.
Bon, je n'y vais pas tellement. Alors, je suis aussi quelqu'un qui aime les nouvelles technologies. Et au niveau du travail paroissial, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies. Par exemple, et Dominique a été étonné la première fois, pour les couples qui veulent se marier ou qui veulent baptiser leurs enfants, j'envoie un formulaire en ligne à remplir pour avoir les renseignements. Et on ne remplit plus les trucs à la main. Parce que moi, les papiers, je les perds et tout ce qui est sur mon disque dur reste. Voilà.
On a parlé du catéchisme. Alors, quand on arrive, c'est frais, puisque vous prenez les dossiers en cours.
Oui.
Il y a le quotidien de la vie religieuse aussi à suivre, à assurer. Si vous avez comme ça, première ébauche de projet, peut-être éventuellement, qui vous vient quelque chose que vous souhaitez créer, amener.
Ce que j'avais réalisé à la Gravone et que je trouvais intéressant, c'était d'avoir un lieu pour les jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes, si on leur dit qu'il faut venir au catéchisme, s'enfermer dans une salle le vendredi entre 17h30 et 19h, à l'heure du foot et de la danse, c'est pas tellement quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc, on est en train de revoir, on va continuer les choses, et puis on va essayer de faire évoluer certaines choses petit à petit. En arrivant ici, la première chose que j'ai faite, c'était de demander à l'évêché les parcelles cadastrales qui nous appartenaient. Et il n'y avait rien d'intéressant. Et en discutant avec les confrères, on m'a parlé du terrain de la confrérie, le terrain Saint-Antoine.
Exactement.
Et on est allé le visiter avec Nicolas. Et pour moi, ce serait du gâchis de laisser ce terrain tomber en ruine. Donc on est en train de travailler un projet, là c'est une avant-première. Hein.
Je suis au cœur des nouvelles.
Des scoops.
Il se trouve où ce terrain?
Le chemin Saint-Antoine, c'est entre les deux ronds-points de Pietramaggiore.
D'accord. Oui, non, ça je sais.
Voilà.
Sur
d'accord,
la droite.
Ok.
En dessous du gros rocher.
D'accord.
Et donc ce terrain, pour moi, c'est exactement l'outil qu'il nous faut pour faire une pastorale des jeunes qui soit intéressante. Voilà. Il faut que, pour moi, il y a trois ingrédients pour que la recette fonctionne avec les jeunes. Le premier ingrédient, c'est la disponibilité. C'est pas aux jeunes de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter aux jeunes. Surtout aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de leur dire c'est ça et vous vous adaptez. Et faites le choix entre le foot et le catéchisme. Pour moi, on peut être un très bon chrétien et jouer au football.
Oui. Hein.
D'ailleurs, les plus grands, ils font le signe de croix avant de rentrer sur le terrain. Et puis, deuxième ingrédient, c'est la bienveillance. On ne peut pas juger les gens. Lui, il est comme ça. On accueille tout le monde. Et le troisième ingrédient, c'est la visibilité. Si on enferme les jeunes dans une église ou dans une salle paroissiale pour faire des, entre guillemets, cours de catéchisme. Moi, j'ai été jeune il n'y a pas si longtemps, même si j'ai quand même 36 ans. J'ai eu la chance dans mon petit village d'avoir quelqu'un qui s'occupait de la catéchèse et qui nous faisait faire des activités dans le village. Et c'est ça qui nous a intéressés. Voilà. Donc voilà, avec ces trois ingrédients, il faut qu'on arrive à trouver la recette pour faire en sorte que beaucoup de jeunes s'inscrivent au catéchisme et à l'aumônerie, parce qu'on a la chance d'avoir aussi le collège à Calvi, pour leur permettre de découvrir mieux qui est le Christ, mais aussi mieux découvrir qu'est-ce qu'il attend de chacun de nous, et quelle est la vocation propre à chacun, et comment on peut être heureux dans notre vie tout en apportant ce bonheur autour de nous.
Donc, on a réussi à décrocher un petit scoop. Sur les prochaines célébrations, alors pour les personnes, est-ce qu'on peut avoir un petit peu ce qui va venir?
Alors, donc il y a la rentrée du catéchisme, je le rappelle, mercredi prochain à 16h à la salle paroissiale et à 17h30, messe avec bénédiction des cartables. Le pèlerinage à la Vasine à jeudi. Dimanche, il y a la messe à la cathédrale. Parce que vous savez que pour l'installation d'un curé, le maire remet les clés au curé. Et donc, on ne va pas le faire dans toutes les paroisses, mais pour la cathédrale, comme c'est symbolique, il y aura cette célébration à 11h dimanche prochain. Et simplement, j'ai changé quelque chose par rapport aux messes de semaine. Avant, il y avait la messe tous les matins, du mardi au vendredi à 8h30. Et depuis la semaine dernière, le mardi et le vendredi, la messe est à 18h. Et le mercredi et le jeudi est à 8h30.
D'accord. Donc comme ça, les informations seront passées. Alors bien évidemment, on relaiera, nous, un petit peu sur les réseaux sociaux aussi, toutes ces informations. Merci. Merci d'avoir accepté déjà l'invitation. On était très touchés.
Merci de m'avoir invité.
Bien sûr, pour les auditrices et les auditeurs, l'émission va être en podcast incessamment.
Dans quelques minutes.
Donc, ceux qui l'ont loupé pourront bien évidemment en profiter. Nous, en privé, on va essayer avec Anto de vous voir pour essayer d'intercéder auprès du Tout-Puissant pour le Sporting. Parce que ce qui s'est passé ce week-end, ça. Plus que ça se repasse.
Ce fut un calvaire.
Voilà, je rappelle. Voilà, nous sommes le 18 septembre. Moi, je vais pas tarder.
Au bout du chemin de croix, il y a la résurrection quand même.
Alors, ce serait l'accession en Ligue 1. Ça. Nous étions le 18 septembre. C'était le jour du génie. Alors, je laisse les gens aux égos surdimensionnés penser que c'est leur jour.
Je pensais que c'était le tien.
Non.
C'est la reprise en plus.
Je me suis redirecté. Ah ouais. Un joyeux anniversaire à Bernard Werber, l'auteur des fourmis. Un joyeux anniversaire à Lance Armstrong, même s'il a triché un peu pour avoir plusieurs Tours de France. Allez, on pardonne. C'était la journée mondiale. C'est la journée mondiale du contrôle de l'eau. Ce serait bien qu'en Corse, on se mette un petit peu à réfléchir sur cette problématique. Et aussi, la journée internationale du bambou. Il y a des journées internationales, des fois, tu te poses des questions.
En Asie, non, c'est célébré, parce qu'ici... Il y a plusieurs genres de bambou, en plus, hein. Attention.
On souhaite une bonne fête au Nadège, au Ariane et au Océane. N'oubliez pas... les associés, il y a eu le forum des associations. C'est malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pu assister.
Enfin, j'y étais quand même. Hein. J'ai animé.
Toi, tu as animé. Je n'ai plus assisté. Vous pouvez adhérer à l'association Radio Capitadelle pour une somme modique. En plus, modique. En plus, vous pouvez.
De 15 euros.
Voilà, vous pouvez faire des dons aussi. Et il y a le site Eloasso. Vous pouvez soit adhérer, soit aussi acheter
une magnifique affiche des 40 ans par Antoine de Pop.
Voilà.
Donc, pour les 40 ans de la radio.
C'est bien de le dire, c'est la rentrée. Alors, puisque vous êtes à faire l'échec pour les licences de sport des enfants et tout ça, bah, finalement, une fois qu'on a signé le premier, c'est quoi de signer le second hein, on est sur la lancée, souvent la petite a fait la danse, l'autre fait du foot, l'autre fait du judo. Donc, allez, 15 euros, c'est une somme qui est assez raisonnable, dérisoire. Et comme ça, vous participerez à l'effort de guerre. On est là au quotidien pour vous servir. Nous, on se donne rendez-vous vendredi.
Oui.
Hein, on se voit vendredi pour Piazza.
Tout à fait, je viens à Piazza, c'est que de la pâtisserie.
Voilà, puisque je reprends un petit peu. Je vous laisse entre les mains expertes de Nagui, qui va vous assurer le reste de la matinée. Chers auditeurs, nous vous souhaitons une agréable journée. À bientôt.